La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
7h15, Pierre-Yves, on regarde encore le secteur bancaire ce matin, puis on a appris en fin de semaine que UBS, l'Union des banques suisses, rachète son compétiteur Crédit Suisse, supposément pour calmer le jeu, là, éviter la panique, mais en tout cas, regardez ça tantôt ce matin, ça marche plus ou moins.
Mais disons-le en français, c'est comme si on se lève un matin au Canada et que la Banque Royale annonce qu'elle rachète la Banque TD avec l'aide des autorités puis avec le support de la Banque centrale. C'est sûr que ça amènerait des questionnements. On est une des institutions ici, on parle de Crédit Suisse, les plus importantes dans le monde au niveau du risque systémique, hein, pas au niveau de la valeur boursière. Là. Tu sais, c'est une transaction de 3 milliards de francs suisses, c'est pas grand-chose en dollars. Là. C'est pas une fortune, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que les gouvernements suisses ont dit on a une responsabilité systémique dans le monde. Si une de nos institutions importantes tombait à cause d'une perte de confiance, parce qu'elle a fait des pertes dans le passé, parce qu'il y a des problèmes de gouvernance, parce que la situation actuelle n'est pas favorable, on serait tenu d'une grande responsabilité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, on va aider la transaction. Donc, je te ramène dans les faits, là, c'est pendant la crise financière, UBS était le mouton noir, et maintenant, le mouton noir rachète Crédit Suisse, qui était, dans le temps de la crise financière, la société qui était solide. Alors, tu vois, la marque est brûlée, le contexte fait en sorte que Crédit Suisse était sous pression. On voulait éviter qu'il y ait une dégradation. Donc, on a fait ça, même si en octobre dernier, là, le président annonçait que, tu sais, on avait une restructuration, qu'on regardait vers l'avenir. D'ailleurs, vendredi, il y avait un communiqué de la direction de Crédit Suisse pour dire on a pris des bonnes décisions pour s'en aller droit vers l'avant puis que ça aille mieux. Donc, tu vois que dans une fin de semaine, il s'en passe des choses dans les tractations.
Mais je vais donner un exemple que je lisais hier, là. Tu sais, parce que on comprend le marché, etc., là. Mais la Silicon Valley Bank, là, depuis 2021, fait l'objet d'une surveillance spéciale de la Réserve fédérale américaine. Et même l'an passé, ils ont envoyé une série d'avis en disant, écoutez, votre gestion est pas bonne. Vous prenez des risques inutiles. Vous dépensez trop. Il y a trop de prêts. Vous serez pas capable de rembourser les gens. Autrement dit, là, il y avait des signaux que le consommateur ignorait, là.
Ouais, mais c'est une banque régionale. Tu sais, c'est ça l'affaire aux États-Unis. Il y a une mauvaise gestion des... On s'est battu aux États-Unis pour que les banques régionales aient pas les mêmes obligations, hein, un one size fit all que les grandes banques américaines. Mais en même temps, on vient dire après qu'on est surpris quand elles ne répondent pas aux attentes. C'est-à-dire que, tu as raison, les gestionnaires de banques ont manqué leur coup. Au Québec, au Canada, la Banque Laurentienne, la Banque Nationale, ce genre de gestion-là ne pourrait pas arriver. C'est tellement surveillé. On fait un communiqué de presse, on met des virgules aux bonnes places, on met des ratios, on explique les tendances, on supporte, on explique les... Tu sais, il y aurait eu des analystes extérieurs qui auraient dit « Hey, la gang, ça va pas bien pantoute, là. » Donc, c'est pas ça qui est arrivé là-bas. Et Paul, tu sais, pendant ce temps-là, les banques mondiales sont tellement inquiètes de la panique, parce que c'est ça qu'on a peur. C'est pas la réalité, c'est la panique. Et ce qu'on dit, c'est « Regarde, l'ensemble des banques centrales va s'assurer » qui manque pas de liquidité dans le marché. Donc, on va faire une espèce d'entente qui nous permet de nous échanger des liquidités. Mais ce qui est très drôle, c'est quand tu regardes ça froidement, c'est que la lutte à l'inflation, l'obstination à la lutte à l'inflation très forte et l'augmentation des taux directeurs a amené une conséquence qui avait peut-être pas été évaluée à juste prix par les banques centrales, c'est-à-dire tu vas ébranler tes bilans là, par de certaines institutions. Et donc, ça va venir nuire aussi d'une autre façon à ton économie. Mais c'est quand même fulgurant ce qui est arrivé, là. C'est-à-dire, tu dis à une banque, achète-en une autre. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que la banque saoudienne, elle, qui a dit, nous autres, on n'embarque pas plus là-dedans dans le Crédit Suisse, ben, se retrouve, finalement, dans la transaction, on va perdre de l'argent. Mm-hmm. Parce que quand tu te fais forcer de te faire racheter par une autre banque avec un prix d'amis, ben, les investisseurs qui ont investi dans les derniers mois puis qui ont perdu de l'argent, ben, vont le perdre pour vrai. Alors, c'est un drôle de processus où les actionnaires privés ont l'air de se faire imposer une transaction.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Le dossier dans la presse de ce matin sur le travail des ados, là, Québec qui s'en vient avec une législation là-dessus.
Pour un âge minimum, pour un nombre d'heures maximum durant l'année scolaire, est-ce que d'un point de vue théorique, c'est une mauvaise chose? Pas du tout, là. C'est sûr que plus on a mis des ados dans le marché du travail, plus on les a exposés à des dangers. Et ça, c'est statistiquement logique. Maintenant, où j'ai des virgules? C'est que la vie adulte commence pas à 18 ans, puis elle commence pas du jour au lendemain. Et la vie d'enfant ne se termine pas à un âge précis. Et dans certaines circonstances, il y a une évolution. C'est-à-dire, ta mère a un magasin de piscine, disons. Ça se peut que tu sois commis à la caisse à 13 ans, puis que pour toi, ça fait partie d'une valorisation sociale, puis que sans pression, on te permet de travailler 6 heures par semaine, ben même si t'as pas 14 ans, est-ce que c'est nocif? Il y a des gens qui ont eu l'entrepreneuriat dans le sang grâce à ça. Donc, tu sais, mettre certains bémols. Là, ça m'étonnerait qu'on interdise aux gens de 14 ans et moins de garder des enfants ou de tondre des gazons. Sinon, on va avoir un problème économique, Paul. C'est une grosse économie souterraine. L'autre affaire, c'est aussi, je comprends au niveau de la gestion scolaire, et c'est peut-être un partenariat avec les employeurs qu'on doit faire. Parce que quand tu es un employeur, que tu as des jeunes employés, même en bas de 16 ans, là, 15, et que tu te dis, je veux les engager pour leur donner de l'argent de poche, ça va, mais comme t'as comme responsabilité de bloquer leur incitatif à travailler. Parce que ces temps-ci, le problème, puis j'ai des amis qui vivent ça avec leurs enfants, là, c'est que sur Internet, là, ce qui se dit présentement, c'est que l'école, ça sert à rien. Ah, pour vrai, Paul, c'est un peu décourageant. L'école, ça sert à rien. Ce que j'ai appris à l'école, ça n'a rien servi dans ma vie. C'est une vision très court terme de ce que c'est l'apprentissage, les connaissances, puis la valeur d'un permis de travail. Et donc, ça, là, c'est un enjeu extrêmement important parce que t'as...
C'est des gars ou des filles?
C'est les deux.
Les deux, OK. Alors,
t'as des gars d'un bar qui disent, « Moi, avant, je travaillais dans un fast-food. Maintenant, je suis en immobilier, je suis millionnaire à l'école, ça sert à rien. » De l'autre côté, t'as la fille, « Regardez-moi dans les hôtels, là. Je vis la vie de rêve. Je vis de mes TikTok, tu sais. » Et là, t'as les jeunes qui sont chez leurs parents à Sainte-Marceline-de-Kildare, Repentigny ou bien Rosemont, qui vont à l'école tous les jours, qui se font dire qu'il faut qu'ils aient à l'école. Puis qui regarde des gens avec des trains de vie très élevés, sans connaître les dessous, sans comprendre l'impôt, sans comprendre le coût de la vie, sans comprendre la valeur dans le temps, et ils sont en concurrence avec ça. Et comme parent, là, c'est un... Écoute, mon gars, il a 11 ans, fait que je marche sur des œufs, il est pas encore contaminé, mais quand il va me dire, qu'est-ce que ça t'a donné, Pierre, tu sais, papa, là, ton cours d'éducation au choix de carrière, là, explique à ton enfant que c'est lent, c'est un processus de réflexion, puis tout ça, c'est pas évident. En tout cas, je salue tous les parents qui vivent ça présentement. Le combat entre l'attrait du marché du travail, puis l'attrait de la job, puis de l'argent, versus l'éducation pour le long terme.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut.
C'est 23.